Vous écoutez France Culture. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce matin à Amiens, obligeant même le tribunal à se déplacer dans une salle de spectacle. 832 anciens salariés de l'usine Goodyear attaquent au prud'homme le géant du pneumatique pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse. Nous serons sur place dès le début de ce journal, donc avec Catherine Pétillon.
En pleine crise gouvernementale, Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui sur les terres du général de Gaulle.
Oui, le chef de l'État est à Colombelles-les-Deux-Églises pour célébrer les 60 ans de la Constitution de la 5e République, une séquence politique encore bousculé par la démission de Gérard Collomb, même si l'exécutif cherche plus que jamais à minimiser cette affaire. Analyse dans ce journal avec Maxence Lambrecq et Alexandra Dubouchereau.
Et ce sera également le thème de l'interview politique.
Oui, invité aujourd'hui Philippe Gosselin, député LR de la Manche et maître de conférence de droit constitutionnel à Sciences Po.
Ce sera d'ailleurs aussi le thème de la deuxième partie de la Grande Table, puisqu'avec notre invité Roberto Saviano, rejoint par l'historien Jacques de Saint-Victor, on fera une comparaison de nos deux républiques à l'occasion des 60 ans donc de la République française. À l'étranger désormais dans votre journal Thomas Cluzel, direction tout d'abord le Brésil.
Oui, à trois jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, Fernando Haddad, le candidat de gauche, dénonce des coups bas à son encontre et attribue la poussée dans les sondages de son principal adversaire, le candidat d'extrême droite, à une campagne de fausses informations. Reportage à suivre au dernier meeting de campagne de Fernando Haddad avec notre envoyé spécial Olivier Poujade. Londres accuse le renseignement militaire russe d'avoir mené les principales cyberattaques mondiales de ces dernières années. C'est la première fois que le Kremlin est ainsi spécifiquement désigné par le gouvernement britannique, nous dira notre correspondant Antoine Gignot. Enfin, le mystère reste entier autour du sort d'un journaliste saoudien donné pour disparu après son entrée dans le consulat de son pays à Istanbul. De son côté, Riyad soutient que cet homme, critique envers les autorités saoudiennes, a bel et bien quitté les locaux de la mission diplomatique. Les précisions à suivre de Anne Andlauer. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La République italienne et la République française, donc ensemble réunis dans la deuxième partie de la Grande Table.
C'était le 20 janvier 2016. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie et de l'industrie, répondait à un ex-salarié de Goodyear, condamné à 9 mois de prison ferme pour la séquestration pendant une trentaine d'heures du DRH et du directeur de la production de l'usine d'Amiens. La vie d'un entrepreneur, elle, est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, avait-il déclaré. Avant d'ajouter, ça n'existe pas d'interdire le licenciement. Alors depuis, le ministre est devenu président et les ordonnances qui portent son nom sont venues limiter le périmètre d'appréciation des difficultés économiques des entreprises transnationales au plan strictement national. Une manière en somme de mettre fin définitivement aux affaires du type Goodyear et autres Continental. Sauf que la procédure lancée par les ex-salariés de Goodyear contre leur entreprise est antérieure justement aux récentes réformes du Code du Travail. Et c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, 832 anciens employés de l'usine de pneumatiques d'Amiens Nord se retrouvent donc à pouvoir attaquer devant les prud'hommes leur ancienne société au motif, disent-ils, que leur licenciement était dépourvu de causes économiques réelles et sérieuses. Reportage à Amiens sur cette première journée d'audience avec Catherine Pétillon.
Le camion de la CGT était là le premier. Le syndicat a mené pendant 10 ans le combat des salariés de Goodyear Amiens Nord contre la fermeture de leur usine. Peu à peu, au petit matin, sont arrivés les anciens de l'usine de pneus, accompagnés parfois de leur famille. Et devant la salle des congrès d'Amiens, où a été délocalisé le procès, ils ont raconté leurs difficultés depuis 4 ans que l'usine a fermé, les maladies, les divorces, ceux qui se sont suicidés. On ne parle pas assez de cet aspect-là des choses, insiste Gérard La Cinquantaine, au chômage depuis. Tous sont venus ici pour obtenir réparation.
On laisse pas tomber. On a passé notre vie à travailler ensemble, donc il n'y a pas de raison.
À 61 ans, Patrice fait partie de ceux qui sont retraités, a pris une vie professionnelle entière chez Goodyear.
On a un petit peu la rancune parce qu'on s'est fait jeter comme des malpropres. On a quand même donné notre vie pendant quand même pas mal d'années. Tout ce qu'ils nous ont fait voir, en fait, on se venge pas, mais on demande réparation. On s'est bien battu pendant pas mal d'années, on s'est serré les coudes, on ne va pas lâcher maintenant.
Ce matin, environ 500 personnes ont fait le déplacement pour une audience où Maître Fiodorilov, avocat des salariés, conteste le motif économique des licenciements.
On va poser une question extrêmement simple. Est-ce que, oui ou non, il est permis de licencier près de 1000 salariés quand on fait en même temps 2,5 milliards de dollars de profit net après impôts? Si on regarde le Code du Travail, c'est interdit.
L'avocat plaide depuis 9h30 ce matin. Ses 4 heures de plaidoirie, il n'a pas voulu les utiliser pour raconter les conséquences sur la vie des ex-salariés. Vous le savez déjà, a-t-il dit au conseiller avant d'ajouter, votre rôle est aussi exceptionnel que le lieu dans lequel nous avons choisi de délocaliser les débats. Vous allez appliquer un droit du travail qui n'existe plus, qui a été supprimé en grande partie du Code du travail. Référence aux récentes ordonnances Macron, depuis un an, pour justifier les licenciements économiques, on ne regarde plus les performances au niveau du groupe, mais au niveau national. Fyodor Rylov, lui, depuis ce matin, chiffre, rapport annuel à l'appui, dénonce des profits et des gains de productivité faits sur le dos des salariés. On ne peut pas faire plus d'argent que jamais, le déclarer et en même temps expliquer qu'on a besoin de licencier des salariés, a-t-il scandé. Les avocats du groupe Goudière plaideront eux aussi 4 heures cet après-midi.
Le reportage à Amiens, signé Catherine Pétillon. Si le terme féminin est sans doute plus connu que le substantif masculin désignant à l'origine un personnage de carnaval, c'est parce qu'il est entré dans l'histoire de la politique française grâce à un certain général de Gaulle. Et c'est ainsi que depuis 1968, la chienlit désigne généralement le désordre ambiant, cette agitation venue de la rue. En revanche, et s'agissant cette fois-ci de la pagaille au sommet de l'État, Emmanuel Macron lui a préféré hier user d'un autre terme, celui de péripétie. Alors non pas au sens de la tragédie classique où la péripétie désigne un revirement plus ou moins complet de situation, c'eût été sans doute un contresens dans la bouche du président. Non, pour Emmanuel Macron, la démission de Gérard Collomb est une péripétie, comprenez, un désagrément passager, une anicroche, rien de plus. Alexandra Dubucheron, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Plus que jamais, priorité semble donnée à la banalisation de cette affaire, en clair l'accalmie plutôt que la crise.
Oui, c'est le leitmotiv depuis hier. Il n'y a pas de crise politique, affirme-t-on, de l'Élysée à Matignon. Et surtout, il y a des institutions. La gouvernance n'est pas menacée. Emmanuel Macron a été élu par les Français. La Constitution le protège. Le président l'a d'ailleurs appelé hier dans les allées du salon de l'automobile avec cette petite métaphore.
Le volant, ce sont les Français qui le donnent. Et ils le donnent pour 5 ans à une personne. Le cap est tenu. Le gouvernement est au travail. Et il y a un ministre de l'Intérieur depuis ce matin, comme vous l'avez vu.
Ce ministre, c'est Édouard Philippe, aux manettes provisoirement à Beauvau. Depuis Lyon, où il est arrivé hier soir, Gérard Collomb ne dit pas autre chose. Dans 3 jours, personne n'en parlera plus, minimise l'ancien ministre de l'Intérieur, qui met lui aussi en avant la stabilité des institutions. Il répondait à Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur CNews.
Les institutions, depuis 60 ans et tous les aléas, elles en ont vu d'autres. Et justement, ce qu'il y a de bien dans ces institutions, c'est qu'elles résistent à tout. C'est pas Gérard Collomb qui va tout d'un coup ébranler les institutions de la 5e République.
Alors c'est vrai, cette démission du numéro 2 du gouvernement après celle de Nicolas Hulot et l'affaire Benalla, tout cela aurait sans doute provoqué une crise ministérielle grave sous la 4e ou la 3e République, mais les institutions de la 5e, elles, favorisent la continuité avec le principe majoritaire. La majorité parlementaire découle de la majorité présidentielle. Pour autant, Emmanuel Macron apparaît fragilisé, lui qui avait réussi à incarner la verticalité du pouvoir, à restaurer l'image d'un président monarque. Voilà son autorité très personnelle mise à mal, et ce justement le jour où il se trouve sur les terres du général de Gaulle.
Merci Alexandra Dubucheron. Alors crise ou pas crise, chienlit ou péripétie, quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte que l'on qualifiera de particulier que le chef de l'État, lequel revendique une pratique sinon gaullienne, du moins jupitérienne du pouvoir, se ressource en effet depuis ce matin à Colombelles et deux églises, un pèlerinage, Maxence Lambrec, qui doit officiellement lancer le 60e anniversaire de la constitution de la 5e République.
C'est un Emmanuel Macron qui prend son temps pour rendre hommage au général, longue et paisible visite de la Boisserie, puis rencontre à la mairie de Colombelles avec les élus locaux. Le président a déjà 3/4 d'heure de retard sur son programme. Il profite de ces moments loin de la crise parisienne, une pause bienvenue pour un Emmanuel Macron qui apparaît debout, serein, imperturbable dans la tempête comme le sont les institutions de la 5e. Venir à Colombey, c'est éprouver le vertige de l'histoire, reconnaît-il sur le livre d'or de la mairie. Il nous faut tâcher d'être dignes de cet héritage. Emmanuel Macron tente une fois de plus de s'inscrire dans les pas du général, de prendre de la hauteur. Le remaniement, ce sera pour plus tard. La 5e République a vu passer 8 présidents, 23 premiers ministres, plus de 1400 ministres relativisent à ses côtés Jean-Louis Debray, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Une journée censée donc relativiser la crise qu'il traverse cet après-midi de retour à Paris. Emmanuel Macron relancera sa réforme des institutions, enterrée cet été à l'Assemblée après l'affaire Benalla.
Et en effet, après avoir déjeuné avec les élus locaux, le chef de l'État se rendra cet après-midi au Conseil constitutionnel pour y prononcer un discours devant quelques 200 invités, dont les anciens présidents Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy. L'occasion de louer la solidité de la Constitution promulguée le 4 octobre 1958, mais aussi de relancer sa réforme institutionnelle qui, après avoir été reportée pour cause d'affaires Benalla, devrait être de nouveau examinée à l'Assemblée au début de l'année prochaine. Et pour évoquer donc tous ces sujets, invités De ce journal aujourd'hui, Philippe Gosselin, député LR de la Manche et maître de conférence de droit constitutionnel à Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction.
Bonjour,
bonjour Stéphane. Une première question, monsieur Gosselin. La 4e République a été balayée parce que le jeu des partis y rendait impossible la décision politique, faute de majorité à l'Assemblée. Or, sous la 5e, force est de constater qu'un parti peut être très largement majoritaire, c'est le cas pour La République En Marche, et avoir du mal pour autant à gouverner.
Alors la 4e, elle est morte effectivement de l'instabilité ministérielle, c'est vrai, du jeu des partis, c'est vrai, mais aussi des guerres coloniales, Indochine, Algérie, qui faisaient un complexe et un contexte très, très particulier. Oui, on a une majorité très forte, effectivement, on a eu un alignement des planètes au mois de juin l'an dernier, aux législatives, aux présidentielles, c'est vraiment exceptionnel. Mais ce qui était la force sans doute du président de la République, c'est-à-dire d'être un homme nouveau, lié par aucun réseau, ni de fidélité, ni d'inféodé, etc., aujourd'hui se révèle sans doute une difficulté. Le parti En Marche a encore un peu de mal à se structurer dans les départements. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de militants et qu'il n'y a pas des tentatives pour organiser, mais c'est pas très structuré. On y vient gratuitement, on repart, il y a beaucoup d'animation de réseaux numériques, digitales, mais pas toujours beaucoup de réunions physiques. On n'a pas, en réalité, du coup, beaucoup de capteurs sur le terrain qui font remonter les éléments d'information en dehors des députés qui sont souvent nouveaux, et ça n'empêche pas leur qualité, mais ils n'ont pas toujours le même ressenti que quelques personnes un peu plus aguerries. Il n'y a pas ce réseau de vieux élus qui pourraient transmettre le flambeau, parfois des petits tuyaux, tout bêtement leur expérience. Et donc le pouvoir qui déjà isole, et c'est encore plus vrai sans doute sous la 5e République, système pyramidal, un président de la République, monarque républicain, élu au suffrage universel direct, ça lui donne un poids que peu de chefs d'État ont. Et en plus, il a des vrais pouvoirs, contrairement à certains chefs d'État qui sont là un peu pour le décor, et comme on disait sous la 3e et la 4e, qui inauguraient les chrysanthèmes. Alors tout de suite, les chrysanthèmes, on les sort un peu, parce que ça pleure un peu dans les cimetières du gouvernement, mais au-delà de ça, le parti est effectivement en apparence très représenté parce qu'on a une majorité de 319 en marche avec des modems à côté. Mais ça manque sans doute un peu de lien. Et comme il n'y a pas ces fidèles habituels, à un moment, l'isolement s'ajoute à l'isolement. C'est sans doute ça la faiblesse aujourd'hui.
Est-ce qu'Emmanuel Macron est toujours dans le sillage du général de Gaulle? Il avait réussi jusqu'ici, au cours de sa première année de mandat, à incarner, oui, à se glisser dans le costume que lui offrait la Ve République. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un doute sur l'incarnation?
Écoutez, le doute commence à se ressentir un peu. Même les plus proches du président de la République, en tout cas, j'évoquerai certains collègues parlementaires En Marche qui commencent à se poser bien des questions sur la façon de procéder, sur le ressenti, sur le rythme des réformes, sur l'isolement effectivement du pouvoir. Et si Emmanuel Macron, et je vais pas être mauvais perdant de l'an dernier, si Emmanuel Macron, jeune, brillant, dynamique, a beaucoup d'atouts, il n'a pas non plus, même en mettant ses dans ceux du général de Gaulle, la légitimité de l'homme du 18 juin. Je rappelle que le général de Gaulle n'a pas eu l'intention de commencer une carrière de dictateur à 67 ans. C'est ce qu'il disait au printemps de 58. Mais même s'il n'avait pas l'intention de commencer une dictateur, il ne l'a pas fait. Il était auréolé de cette victoire qu'il a apportée à la France et aux alliés. Il est l'homme du 18 juin. Et c'est justement parce qu'il n'avait, lui, il avait cette légitimité qu'il a souhaité, puisque les autres ne l'auraient pas, procéder à l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Donc ça donne une vraie légitimité qui n'est pas contestée aujourd'hui, mais ça fait pas tout.
Est-ce que dès lors, cette constitution n'offre pas à nos présidents un costume trop grand pour eux? Est-ce que c'est pas un peu inhumain de confier autant de pouvoir dans les mains d'un seul homme?
Alors c'est vrai qu'on peut trouver qu'aujourd'hui on a une hyper présidence de la République, ce qui est d'ailleurs assez exact, c'est très très atypique par rapport aux démocraties occidentales, et sur certains sujets, même le président américain, qui pourtant est dans un régime présidentiel avec des pouvoirs très importants, doit composer avec d'autres. On le voit tout de suite, notamment pour la diplomatie, pour un certain nombre de grandes nominations, avec le Sénat. Vous voyez bien les discussions de marchands de tabac, d'audition, alors pour des raisons liées aux violences sexuelles, etc., peut-être viol, avec un juge promis à la Cour suprême, mais il y a une vraie difficulté. En France, le président, effectivement, peut, en matière diplomatique, défense, etc., donner le là comme il le souhaite. Mais en réalité, donner le là comme on le souhaite, c'est bien si derrière, on a aussi des troupes qui suivent. On peut être un général en chef, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a de vraies troupes. Je ne néglige pas, je ne tacle pas mes collègues ou les militants en marche en disant ça. Mais peut-être qu'on manque un peu de cadre, peut-être qu'on manque un peu d'expérience. Et effectivement, n'est pas De Gaulle qui veut.
Est-ce qu'il n'y a pas une accélération du temps politique qui fragilise nos institutions aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut la modifier pour le coup ?
On a une vraie accélération du temps politique, mais ça c'est vrai dans toutes les démocraties occidentales, qui est liée au dégagisme, à la zapette, à l'info en continu, au réseau, enfin voilà, au monde qui bouge. Et les temps longs aujourd'hui deviennent un peu compliqués à trouver. Tout le monde est dans l'attente du résultat immédiat, et c'est une difficulté pour Macron, pour son gouvernement, comme ça l'est dans d'autres pays et comme ça l'était pour d'autres gouvernements. Il faut un peu de temps pour élaborer la loi, un peu de temps pour qu'elle porte ses fruits, un peu de temps pour que tout ça soit digéré. Aujourd'hui, on veut du résultat le soir, après le vote, le midi de la loi. C'est compliqué. Donc, il n'y a pas que la faute du président de la République, pour être très, très honnête. Et puis, on a sans doute, je le dis sincèrement, commis une grave erreur. Alors, c'est un petit règlement de compte entre Chirac, Giscard, règlement de compte un peu d'ancien monde, certes, mais le quinquennat, je le pense, a été une erreur.
Il aurait fallu conserver le septennat.
Je pense qu'il aurait mieux valu conserver le septennat, qui évitait de remettre trop souvent sur le tapis les élections. Alors, vous allez trouver mes propos très antidémocratiques, mais pas du tout. En réalité, je pense qu'il faut mieux avoir un petit peu de temps long, avec un peu moins de pression du temps, pour mener à bien un certain nombre de réformes nécessaires, évidemment.
Vous avez vu cette enquête ce matin publiée par le journal Figaro, enquête Odoxa, qui montre que seulement 44% des Français sont attachés, se disent attachés à la constitution de la Ve République.
Mais en réalité, je suis pas sûr que chacun de nos concitoyens mesure réellement ce que c'est que la Ve République. Et je le comprends parfaitement, c'est très immatériel. Si vous posez la question un peu différemment à nos concitoyens en disant « Voulez-vous une stabilité importante ? Voulez-vous qu'il y ait une représentation qui compte ?» etc. Vous verrez que les positions seront peut-être un peu différentes. Maintenant, si on voit certaines envies de réforme sur le nombre de parlementaires, leur diminution, leur pouvoir, vous aurez sans doute des taux beaucoup plus forts. Moi, je vous dis franchement, vous avez des gens qui, avec 300 députés, trouvent qu'il y en a trop. Il y en aurait plus que 100, ça sera encore trop. À zéro, bon, ça devient moins démocratique, mais certains, ça leur irait très bien. Donc, je pense malgré tout qu'avec ce qui se passe en ce moment, les gens comprennent que la stabilité, c'est quand même pas si mal dans ce monde où tout va vite.
Et on terminera là-dessus. Merci Philippe Gosselin, député LR de la Manche, je le rappelle, maître de conférence de droit constitutionnel à Sciences Po, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Et merci à Stéphane Robert. Supprimer la publicité sur Radio France et France 5, fusionner la Hadopi et le CSA, mais aussi renforcer les obligations de France Télévisions en matière de parité. Voilà quelques-unes des 40 propositions présentées aujourd'hui par les députés. Le tout en vue du futur projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel public qui devrait être prêt pour début 2019. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a autorisé aujourd'hui la privatisation du groupe Aéroports de Paris dans le cadre du projet de loi Pacte, aux grandes dames des oppositions qui dénoncent une atteinte au patrimoine national. Le mystère s'épaissit autour du sort d'un journaliste saoudien donné pour disparu après son entrée dans le consulat de son pays à Istanbul depuis mardi matin. Jamal Khashoggi, journaliste critique envers l'Arabie Saoudite et vivant aux États-Unis, n'a pas donné de nouvelles et n'a pas été vu sortant du consulat. Les déclarations contradictoires de Riyad d'un côté et Ankara de l'autre n'aident pas à rassurer ses proches. Une correspondance à Istanbul signée Anne Andlauer.
Les proches de Jamal Khashoggi sont sans nouvelles du journaliste depuis plus de 48 heures. Depuis qu'il a passé la porte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, où il devait se rendre pour des formalités administratives. Plus le temps passe, plus ses soutiens sont convaincus que cette plume critique du régime de Riyad est toujours détenue et interrogée dans l'enceinte diplomatique, ou qu'il en a été exfiltré vers une destination inconnue. D'abord silencieuses, les autorités saoudiennes ont soutenu mercredi, via leur agence de presse officielle, que l'éditorialiste avait quitté le consulat. Lequel consulat a fait savoir, je cite, que des procédures de suivi avaient été lancées pour découvrir les circonstances de la disparition de Jamal Khashoggi en coordination avec les autorités turques. Dans la soirée de mercredi, le porte-parole du président turc, Recep Tayyip Erdogan, affirmait pourtant que le journaliste se trouvait toujours à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite. Jamal Khashoggi, journaliste chevronné, était devenu critique envers le pouvoir saoudien ces derniers mois, alors qu'il était auparavant considéré comme proche du gouvernement. Il s'était exilé aux États-Unis l'an dernier par crainte d'une arrestation, après avoir critiqué certaines décisions du prince héritier Mohamed Ben Salman et l'intervention militaire de Riyad au Yémen. Jamal Khashoggi, qui écrivait notamment dans le quotidien américain Washington Post, se sentait menacé. Il avait demandé à sa fiancée de prévenir les autorités turques s'il tardait à sortir de l'enceinte diplomatique.
La chancelière allemande Angela Merkel est reçue aujourd'hui par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une visite où la relation spéciale entre les deux pays sera censée prévaloir sur de sérieuses divergences, qu'il s'agisse notamment de l'Iran ou de la question palestinienne. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche au Brésil, dans un contexte de crise multiple, mais aussi un climat extrêmement polarisé. Depuis des semaines, tous les sondages prédisent que le député de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, est d'ores et déjà assuré de se retrouver au deuxième tour, mais pis encore, puisque là où il semblait avoir atteint un plafond, une dernière enquête d'opinion le voit progresser toujours et encore. Autant dire que pour son adversaire du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, la tâche s'annonce compliquée, d'une part parce que l'issue du scrutin semble donc quasi jouée d'avance, mais aussi parce qu'il lui est manifestement difficile aujourd'hui d'assumer ce rôle d'héritier de l'ex-président Lula, emprisonné pour corruption. Reportage au dernier meeting de campagne donc de Fernando Haddad à Rio, signé Olivier Poujade.
Haddad et Lula !
Lula n'est jamais très loin lorsque Fernando Haddad entre en meeting, quitte à passer pour le lampadaire, l'homme de paille de Lula, comme le présentent ses opposants.
Je suis très fier d'avoir participé au gouvernement de Lula et Dilma.
Le lampadaire assume et défend le bilan du PT, le Parti des Travailleurs.
Nous avons créé des programmes pour que les Noirs puissent entrer à l'université. Mais ça les a gênés de voir des travailleurs faire des études. Comme si ce n'était pas leur place. Ça a été la même chose dans les restaurants, les aéroports, les banques. Ça les a mis mal à l'aise.
Les personnes que Fernando Haddad pointe du doigt, ce sont les élites blanches du pays. En meeting, il opte pour la même rhétorique que Lula, mais il n'a pas la même présence. Le candidat Haddad ne convainc qu'à moitié cette militante.
Ses discours ne m'intéressent pas. Je veux savoir ce qu'il fera concrètement. Je ne vote pas Haddad parce qu'il est le candidat de Lula. Il a été un bon gouverneur, un bon maire, un bon ministre, mais je trouve qu'il part un peu dans tous les sens.
La position de l'ancien maire de São Paulo n'est pas simple dans cette campagne. Il doit rassembler son camp, restaurer l'image du PT qui incarne désormais les affaires de corruption et contrer aussi les idées d'extrême droite de son principal adversaire, Jair Bolsonaro, qui dispose de 10 points d'avance sur lui dans les sondages à quelques jours du scrutin.
Voilà, reportage à Rio, signé Olivier Poujade. Au risque de raviver un peu plus encore l'ambiance de guerre froide qui prévaut depuis l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal au Royaume-Uni, le ministre britannique des Affaires étrangères a accusé ce matin la Russie d'avoir été à l'origine des principales cyberattaques menées à travers le monde ces dernières années, des attaques visant aussi bien des institutions politiques et sportives que des entreprises ou bien encore des médias. Et pour chacune de ces attaques identifiées, un seul et même coupable, le renseignement militaire russe. Une correspondance à Londres d'Antoine Gignot.
Ce sont des groupes connus par leur nom de code, le califat cybernétique, l'équipe du tsar, l'ours vaudou ou les acteurs de l'énergie noire. Tous sont, selon le gouvernement britannique, affiliés au service secret russe et responsables de plusieurs piratages de grande ampleur. Une attaque au mois d'octobre de l'an dernier qui a paralysé le métro de Kiev, l'aéroport d'Odessa, la banque centrale de Russie et plusieurs médias russes, mais aussi le vol de dossiers médicaux de l'agence antidopage qui contenait des informations sur les athlètes internationaux, la paralysie d'une petite chaîne de télé britannique ou le détournement des mails du Comité national démocrate pendant la campagne présidentielle américaine. Des actions irresponsables et aveugles, écrit Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères, des actions qui nuisent même aux citoyens russes et qui ne respectent pas le droit international. Ces déclarations interviennent au moment où le Royaume-Uni se lance avec les États-Unis et l'OTAN dans de grandes opérations de cyberdéfense, sujet crucial pour le pays, explique Sir Mark Lyall Grant, l'ancien conseiller pour la sécurité nationale, précise que la moitié des entreprises britanniques ont déjà été contraintes de faire face à des attaque informatique. Il s'agit, dit-il, de l'une des plus grandes menaces pour le monde libéral.
Et j'ajoute que ce matin, le renseignement néerlandais dit avoir expulsé 4 agents russes après avoir déjoué une opération russe, donc visant en avril dernier l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui, marqué par le retour du soleil, sauf sur l'extrême nord du pays. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 18 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.